Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 28 décembre 2022, c'est la dernière émission pour l'année 2022, il est 17h, vous écoutez Au fil des pages et merci de nous rejoindre sur les ondes de Radio Libertaire, nous sommes en direct. Et avant de nous évader dans la musique classique, faisons le point et faisons état d'une page publiée dans le journal Le Monde et qui porte sur la liberté d'expression. Je vous en donne lecture. On ferme une librairie, on censure un livre. C'est une page complète. Nous sommes en France en 2022, à l'occasion de la venue à Nice du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. La police a fermé de force une librairie. Les vitrines de la librairie Les Parleuses, qui exposait le livre d'Hélène Devinck, Impunité, ont été bâchés de noir et les clients interdits d'entrer. C'est une atteinte inacceptable à la liberté d'expression. C'est un acte qui ne peut rester impuni. Les éditions du Seuil apportent tout leur soutien aux libraires de France qui, quelles que soient leurs opinions, sont des défenseurs actifs de la liberté d'expression dans notre pays. En effet, je ne connais pas la librairie Les Parleuses. Je ne connais pas le livre d'Hélène Devinck, je veux dire par là Impunité, je veux dire par là je ne l'ai pas lu, mais il me paraît absolument inacceptable d'interdire, de bloquer comme ça la communication, de faire une forme de censure, anastasie, et vraiment, c'est comme ça qu'on surnommait la censure au XIXe siècle, sévit encore aujourd'hui, et c'est vraiment inacceptable. Je voulais qu'on en fasse état, parce que malheureusement, les autres médias n'ont pas tellement relevé cette situation. Nous finissons par verser dans une normalité dans les atteintes à la démocratie et aux libertés publiques. Ceci étant dit, commençons avec un peu de musique classique pour nous évader de ce sinistre monde, avec André Chausson. André Chausson, chanson perpétuelle. Frédéric, on peut y aller ? Thank you. Au fil des pages, une émission proposée par des passionnés du livre et de la lecture, et aujourd'hui dans le studio, Frédéric, Marie, Francis. De 17h à 18h30, les 2e et 4e mercredis de chaque mois sur Radio Libertaire, 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Et en plus, sur le net, connectez-vous sur le site de Radio Libertaire en direct et en podcast. Nous clôturons en effet cette année 2022 et nous entendons bien vous retrouver en 2023 pour de belles et passionnantes lectures. Alors, en cette fin d'année, eh bien, un clin d'œil à quelques amis qui nous écoutent en direct ou en podcast. Par exemple, Alain dans le Limousin. Alison, perdue au fin fond du Jura, Sophie, en Lorraine, Marie-Carmen, du côté de Perpignan, Michel, en Bretagne, Gérald, en Île-de-France, tout ému de son expérience en Algérie et qui a vraiment su faire passer ce qu'il avait vécu pendant cette guerre. Et puis, Cécile de Clamart, Jacques de Cannes, et tous ceux que nous avons reçus en 2022 et les visiteurs de Publico, car en ce moment, nous le savons, Radio Libertaire y est diffusée. Donc, un clin d'œil en cette fin d'année à nos amis, et puis on attend évidemment de pouvoir vous retrouver début 2023. Le deuxième mercredi de 2023 sera consacré à... le dialogue sera consacré à deux livres de Victor Cachard, Le Sabotage. Sur cette première partie, pour alimenter le débat, deux livres en hommage à Dominique Khalifa. Tout d'abord, un livre de Dominique Khalifa, et Marie va nous expliquer comment ça s'est passé, comment elle a pris contact avec ce livre, Histoire de la nuit des temps, aux éditions de la Sorbonne. Et puis un autre qui est un collectif qui rend hommage à Khalifa, Roy Pinker, vous allez voir, CNRS Édition. En dialogue, nous recevrons Aristide Barrault pour son livre « Bâtiment 5, courte vie pleine », paru aux éditions du Seuil. Et une pépite, un livre qui m'a beaucoup plu, un dictionnaire anarchiste des enfants aux ateliers de création libertaire. Et je suis passé tout à l'heure à Publico. Et une fois de plus, on a pu constater que ça marche bien, que ça plaît beaucoup, ce livre plaît beaucoup. Et c'est tant mieux car il est vraiment porteur d'un beau message. Alors, premier temps, pour ouvrir le débat, un hommage à un grand historien trop tôt disparu, selon la formule consacrée, nous parlons de Dominique Khalifa. Alors Marie, tu n'as pas pu assister à notre dernière émission, car tu assistais à une rencontre organisée par les éditions de la Sorbonne et consacrée à son livre posthume, ou un opuscule en tout cas, Histoire de la nuit des temps. Alors, qui est Khalifa et quel est l'intérêt de ce livre ?
Donc, rappelons que Dominique Khalifa est un historien des représentations, des imaginaires sociaux, qui a écrit de nombreux ouvrages sur la Belle Époque, les marginaux, les faits divers et le crime au 19e, 20e siècle, puisque c'était un contemporanéiste. Donc, lors de cette présentation qui a eu lieu le 14 décembre dernier, plusieurs proches de Dominique Khalifa étaient présents, donc sa famille, ses collègues, amis et collaborateurs de cet ouvrage, Histoire de la nuit des temps. Les intervenants, Philippe Artière, Anne-Emmanuel de Martini, Marie-Ève Terenti, Bertrand Tillier et Santiago Artowski ont partagé l'analyse et le ressenti qui découlent de leur lecture du dernier travail de l'historien défunt qui porte sur les chrononymes et qui poursuit un essai précédemment publié, donc en janvier 2020, intitulé « Les noms d'époque de restauration à années de plomb ». Donc je précise que les chrononymes désignent des noms propres du temps et expressions désignant une période à laquelle toute une société se réfère. Donc la Belle Époque est un chrononyme, de même que les Trente Glorieuses ou la Restauration par exemple. Donc là, lors de cet entretien, de cette présentation je veux dire, du 14 décembre, la fille de Dominique Khalifa, Adèle, nous explique qu'elle a retrouvé dans l'ordinateur de son père deux fichiers concernant l'écriture de cet ouvrage. Le premier fichier fait état d'un texte entièrement rédigé, et le second est quant à lui une sorte de brouillon comportant des annotations, des bifs, des fragments de texte. Donc sa fille a bien précisé que son père lui avait confié que ce projet d'écriture devait aboutir à un essai, donc soit un ouvrage relativement synthétisé, et non pas un livre de 500 pages. Donc le thème de cet ouvrage, La nuit des temps et son histoire, ouvre une réflexion intéressante sur la distorsion temporelle. De plus, il s'inscrit dans la continuité du travail de l'historien, Khalifa, qui gravite autour de l'histoire de l'invention de la Belle Époque. Ce livre suscite une forme de mystère.
La Belle Époque, tu rappelles, c'est quelle période à peu près ?
La Belle Époque, c'est celle qui est entre la fin du 19e siècle et qui s'achève au début de la Première Guerre mondiale.
Ah, c'est ça. À distinguer des années folles qui, justement, sont après la Première Guerre mondiale.
Tout à fait, il faut bien distinguer. Voilà. Donc, où en étais-je déjà ? Voilà. Donc, comme je disais, ce livre suscite une forme de mystère, car il a une dimension improbable. Ainsi qu'une forme d'humour, en fait, car il fait cogiter le lecteur sur la complexité d'éditer des ouvrages à titre posthume. Ce projet d'écriture, d'un essai sur l'histoire de la nuit des temps, comme le précise Philippe Artière, qui a préfacé le livre, d'ailleurs, part d'une ironie, en fait. C'est pour ça que je parle d'humour, car en fait, parmi de nombreux sujets de thèse qui parfois paraissent aussi farfelus les uns que les autres et prêtent à sourire, car certains enseignants encadrants ne se gênent pas pour faire une comparaison humoristique en disant ce projet, c'est comme vouloir écrire l'histoire de la nuit des temps, un peu comme pour signaler le caractère inattendu et déroutant de certains sujets. Donc Dominique Khalifa, tel qu'il a été décrit par ses proches, ne manquait pas d'humour noir dans sa rationalité de chercheur, ce qui peut laisser suggérer plusieurs hypothèses et interprétations quant à son état d'esprit, en fait, au moment où il rédigeait ce texte, quelques mois avant son décès, qui est survenu tragiquement le jour de son 63e anniversaire, le 12 septembre 2020. Donc peut-être qu'il savait sciemment, lorsqu'il écrivait ce texte, qu'il allait être lu de manière posthume par ses proches et ses collègues, sans pour autant imaginer qu'il allait être publié à leur initiative. Dominique Khalifa a écrit son texte en 2020, donc c'est-à-dire en pleine période de confinement, une période qui a été marquante pour lui comme pour tout le monde, d'autant plus que l'historien adorait voyager, donc il a probablement dû ressentir un sentiment de privation, de manque, de vide, un peu plus important que d'autres personnes, je dirais, un peu plus sédentaires. Cet essai lui aurait peut-être permis de transmettre un message d'outre-tombe à travers un livre fantomatique, comme l'a bien fait remarquer l'une des intervenantes. En tant que contemporanéiste, Khalifa voyageait à travers les siècles modernes dans le cadre de ses recherches qui portaient, comme je l'ai dit précédemment, sur la Belle Époque, les imaginaires sociaux. Ce sont des sujets qui le caractérisaient bien. Et Khalifa, en fait, ne se formalisait pas à vouloir à tout prix découper l'histoire en tranches. Et preuve en est cet ouvrage, car la nuit des temps, en fait, est indatable, elle renvoie à l'aube des temps. Donc on ne peut pas mettre de borne chronologique à la nuit des temps, c'est tout simplement impossible. Et en fait, il démontre la mondialisation d'un imaginaire et le décalage qui subsiste entre les représentations savantes et celles de sens commun qui concernent en fait l'humanité tout entière. Donc c'est d'ailleurs à travers cette ambitieuse entreprise d'écriture d'un essai qui relate brièvement l'histoire de la nuit des temps que Khalifa amène ses lecteurs au-delà de l'histoire des chrononymes qui lui sont pourtant chers. Hein, mais cet ouvrage est resté inachevé. Comme il l'a été souligné lors de cette soirée de présentation de l'ouvrage, que j'ai personnellement interprété comme étant avant tout un hommage rendu de manière émouvante et intime à Dominique Khalifa. Hein. Les fragments de texte trouvés sur son ordinateur ne se réduisent pas à une dimension purement sémantique, en fait, hein. Tout comme ce livre fait d'ailleurs écho à un autre sujet de recherche tout aussi vaste envergure, celui de l'histoire des sensibilités, qui a été imaginé par l'historien des annales Lucien Febvre, hein, il y a déjà plusieurs dizaines d'années, et qui a fait l'objet d'un ouvrage paru récemment, en septembre 2022, écrit par Alain Corbin et Hervé Mazurel, donc Histoire des sensibilités, donc publié aux éditions Presse universitaire de France. Dominique Khalifa nous renvoie également, hein, à travers son ouvrage, à un roman de science-fiction que peut-être certains d'entre vous connaissent, La nuit des temps de René Barjavel, publié en 1968, dont il souligne toutefois les limites. Mais ce qui est intéressant avec l'histoire et les sciences humaines de manière générale, c'est que nous pouvons mettre en relation toutes sortes de supports divers et variés, ce que fait Khalifa d'ailleurs à travers son ouvrage qui regorge de références. Et je ne pouvais terminer mon intervention sans dire quelques mots sur le travail des éditions de la Sorbonne au sujet de cet ouvrage. Sa couverture éveille la curiosité au premier abord, hein, de par sa sobriété et son étrangeté. Le titre « Histoire de la nuit des temps » est écrit en lettres capitales de couleur mauve sur un fond blanc, mais ce qui tape à l'œil, c'est le fondu de l'écriture qui donne l'impression que les lettres du mot « temps » sont en train de s'effacer, ce qui est tout de même peu ordinaire sur une couverture de livre, hein, même si ce livre n'est pas très épais. Donc, au fil des 71 pages de ce petit ouvrage, hein, nous retrouvons d'ailleurs cette écriture enfondue, hein, cette écriture qui s'efface. Donc, à la première page du livre, nous tombons sur l'unique illustration de l'ouvrage qui est très évocatrice, à savoir l'affiche d'une exposition intitulée « La nuit des temps » qui a eu lieu au Musée de l'Homme en 1980, un homme préhistorique avec des ossements humains à ses pieds. C'est une belle allégorie de la démarche historique et scientifique. Et d'ailleurs, cette affiche avait été judicieusement choisie par Dominique Khalifa puisqu'elle figurait en couverture de son manuscrit qui a été retrouvé sur son ordinateur. Voilà, donc un ouvrage à lire, hein, vraiment. Et puis c'est très touchant, c'est son dernier livre, hein, qu'il n'a pas terminé.
Dominique, alors le titre déjà.
Donc « Histoire de la nuit des temps » par Dominique Khalifa. Paru aux éditions de la Sorbonne, c'est la collection Brève, et donc il a été publié en novembre 2022.
Alors un autre livre, là sont les éditions du CNRS qui nous le présentent. Alors il ne s'agit pas, c'est un livre en hommage à Dominique Khalifa, j'en ai déjà parlé, mais il ne s'agit pas de mélange universitaire pompeux, c'est au contraire une approche très vivante. Les faits divers. C'est le titre, Faits divers et vie déviante, les faits divers, la presse du 19e au 21e siècle, la vie du peuple, des gens à travers de petits articles de cette presse qui s'arrachait à des milliers d'exemplaires chaque jour. Et le plus célèbre est certainement le Petit Journal, comme il figure en couverture du livre. Son auteur, Roy Pinker, c'est-à-dire un pseudonyme derrière lequel se cachent une trentaine de journalistes, d'écrivains, passionnés par la presse et proches de Dominique Khalifa, à qui, comme je le disais, cet ouvrage rend hommage. Alors, Khalifa entendait travailler sur l'imaginaire de la violence, sur ceux qui le modèlent, le diffusent, et en s'appuyant sur des faits transmis par la police. Comme le souligne Alain Corbin, dont Marie a parlé à l'instant, dans sa préface, la question était de sonder les rapports noués entre l'imaginaire et la violence, en s'interrogeant notamment sur l'éventuelle dérive de la seconde vers l'imaginaire. Et cette presse populaire, c'est un réservoir des imaginaires. Dominique Khalifa écrivait « Toute approche empirique de la presse au XIXe siècle montre en effet que la masse des faits divers n'est alors constituée ni de bouchers assassins, ni de mâles sanglantes ou de parricides monstrueux. Face à ces quelques beaux crimes, s'agite dans les journaux une multitude d'occurrences atones, de petits faits sans relief, d'événements insignifiants, des rixes, des altercations, des vols à la tire, des escroqueries, des conflits minuscules ou souvent ordinaires, une sorte d'infiniment petit du fait divers qui ne trouve de raison d'être que dans l'accumulation et la répétition. Alors, plusieurs auteurs, là aussi, interviennent. Marie-Ève Terenti, Philippe Artière, dont nous avons parlé à l'instant, mais qui a sorti aussi un très beau livre sur le peuple du Larzac, aux éditions de La Découverte, il y a quelque temps. Et ils insistent sur le côté jeu de la vie de Dominique Khalifa. Et vous vous amuserez, par exemple, à la lecture des têtes parlantes, celle du boulevard du crime, le théâtre des Jazets, ou encore l'enfant mangé par un cheval, l'encre, le sang et le surin au fil de l'eau dans une gravure tirée du Courrier français. Un très beau texte de Félix Fénéon, du grand art de notre ami Fénéon, avec une fine analyse de Claire Devarieux. On retrouve les coupeurs de chevelure, et oui, les coupeurs de chevelure, et on a peur. Et on a peur de la maison hantée 10 heures sur Creuse. Le spiritisme fait vendre du papier. On y croit, ou pas, ou oui, supercherie, surnaturel, au choix. Dans un autre article, vous trouverez le débat, déjà, sur la vaccination, en l'espèce contre la variole. Oui, c'est un tableau de la vie sociale du pays, une œuvre de sociologie très bien écrite, dans un style drôle et alerte, par tous les auteurs, tant les articles de l'époque, parfois rédigés par, d'ailleurs, des hommes de lettres, des gens de lettres, Kessel, d'Anjou, que les analyses de ces mêmes articles, et vraiment, je vous laisse découvrir le beau texte de Dominique Khalifa qui vient clôturer ce livre. Alors, je rappelle, Roy Pinker, Faits divers et vie déviante, CNRS édition 2022. Et pour rester dans une approche un petit peu humoristique, ben voilà, on va écouter Serge Reggiani qui chante Boris Vian dans une chanson Arthur ou Tamilcor. Frédéric.
Ce fut un forfait parfait, un vrai forfait bien fait, car on était fortiche. Le client était futé, alors on l'a buté pour faucher ses potiches. C'est Arthur qui fut chargé de se débarrasser de son cadavre moche. Mais Arthur a rappliqué en murmurant
sa cloche. Je sais pas où il est passé.
Hein? Arthur. Où t'as mis le corps quand c'était créé un cœur?
Ben, je sais plus où j'ai foutu le mec.
Arthur réfléchit, non de là, ça a une certaine importance.
Ce que c'est qu'il est mort, ça, les gars, je vous le garantis. Mais bon sang, c'est trop fort, je me rappelle pas où que je l'ai mis.
C'est pas vrai, Arthur. Mais le marchand d'antiquité, avant d'être liquidé, avait pris le bigophone. Et nous voilà dans la brousse, un quart de flic aux trousses, on la trouvait moins bonne. On a loupé un tournant, et on se retrouve en plein, au milieu d'une vitrine. Les poulets s'amènent en tas, et puis ils nous cuisinent. Dans la petite pièce du bas, oui, oh, 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 oh.
Arthur. Où t'as mis le corps?
S'écriaient les inspecteurs.
Ben, je sais plus où j'ai foutu le mec. Arthur réfléchit, non de là. Ça a une certaine importance. Ce que c'est qu'il est mort. Ça, les gars, je vous le garantis. Mais bon sang, c'est trop fort. Je me rappelle plus où que je l'ai mis. Alors, y'a plus de preuves, hein? Hein, y'a plus de preuves.
On a écopé 10 ans, c'est plus que suffisant pour apprendre la belote. On ne pouvait pas s'empêcher de toujours questionner notre malheureux pote. Comme il maigrissait beaucoup, on cognait plutôt mou pour pas trop qu'il s'étiole. mais à nous-mêmes on pensait. Arthur se paye notre fiole, il nous fait tous marcher. Tu vas causer, oui? Arthur, où t'as mis le corps? Tous les jours on lui demandait. Arthur, il en est mort et on ne sait pas où il est passé. Ah mince alors Arthur, oui.
Allons mes enfants, votre copain Arthur, où l'avez-vous mis, hein? Dites-le à votre bon petit directeur, hein?
Aucun nom ne se rappelait plus ce qu'on avait foutu de cet Arthur de mer. Et le directeur Furax attrapait des anthrax à l'idée qu'il se perde. On a fait venir un devin qui lisait dans les mains et même dans les oreilles. Mais comme tout ça donnait rien, un beau soir on essaye. Le spiritisme ancien, ça tourne les enfants, ça tourne.
Arthur,
es-tu là?
Oui, le corps.
Arthur, où t'as mis ton corps?
Moi, je n'ai plus de corps, le corps.
Arthur, as-tu du cœur?
Bolotte, les gars, rebolotte et 19 d'air.
Oh! Et on a enfin compris que ce salaud d'Arthur était au paradis. Oh, la vache, Arthur.
Un autre ouvrage pour engager le débat, sur la question de l'école. Alors notre ami Hugues Lenoir a publié un livre, et ce n'est pas son premier, intitulé « Pour une école de la liberté, par la liberté », un beau programme dans le titre, et c'est Frédéric qui nous le présente.
Oui, bonsoir chères auditrices et chers auditeurs. Bon, c'est vrai, ce sont les vacances scolaires et je vais parler d'éducation, je suis un petit peu pervers. Mais ce n'est pas grave, c'est pour une bonne cause. Alors aujourd'hui, je vous présente Pour une école de la liberté par la liberté d'Hugues Lenoir. Je ne connaissais que peu de choses sur l'éducation libertaire, son histoire et ses différentes applications concrètes. C'est pourquoi j'ai choisi ce livre. Et je ne suis pas déçu de ce choix. En effet, cet ouvrage offre un historique qui nous fait découvrir aussi de grands noms de l'éducation libertaire qui purent ouvrir des écoles dont la pédagogie était très novatrice. Des méthodes qui sont à l'opposé, des méthodes de l'école que la République a imposées aux élèves du passé jusqu'à aujourd'hui. Hugues Lenoir explique très bien ces différences. L'émancipation par l'éducation ou l'éducation émancipatrice et non pas l'éducation pour remplir des cerveaux, pour produire de futurs êtres prêts à être utilisables par le monde du travail capitaliste, formatés grâce à l'apprentissage de la soumission et l'acceptation de la domination du sachant. Cet ouvrage ne se cantonne pas au passé, mais parle aussi du présent de l'éducation libertaire. Un livre accessible à toutes et tous, sans avoir de prérequis de connaissances sur la pédagogie, ce qui est mon cas. L'ouvrage est bien conçu et suit une progression agréable et logique, et qui donne de bonnes bases pour, si l'envie s'en fait sentir, de lire d'autres ouvrages sur le même thème, et pourquoi pas du même auteur. Cela peut paraître étrange aux détracteurs de l'anarchisme qui ont une représentation erronée d'une société libertaire où régnerait la loi du plus fort et le chaos. Oui, l'anarchisme a prévu et construit depuis fort longtemps des méthodes d'éducation. Je ne peux que vous conseiller ce livre accessible à toutes les bourses pour une école de la liberté par la liberté. 113 pages, les éditions du Monde Libertaire, 8 euros, qui est bien sûr disponible soit en commande ou soit en rayon à la librairie Publico. Voilà, et désolé pour vous avoir parlé d'éducation en cette période de vacances. Je repasse le micro à Francis.
Merci Frédéric. Alors pour clôturer cette séquence débat, eh bien nous proposons une revue consacrée à la géopolitique, Hérodote. Alors, ça pourrait paraître un petit peu étonnant, parce que c'est un numéro qui est consacré tout simplement à la nouvelle géopolitique électorale. Alors, on pourrait dire que nous, ça, c'est pas forcément ce qui nous intéresse. Or, au contraire, c'est intéressant, c'est de voir que les habitants sont pris en otage de propos définis autant qu'hasardeux, que les promesses ne sont évidemment jamais tenues, que leurs promoteurs sont protégés par l'absence de mandat impératif, concept refusé par la Constitution. Je vous rappelle que seule la Commune de Paris avait intégré cette notion. Et donc là, eh bien, on va voir ce qu'on va voir à l'analyse des élections, et particulièrement des élections de juin 2022. Et puis, sur ce qui va se dérouler après. Alors franchement, entre juin 2022 et aujourd'hui, on n'est pas déçu. On pourrait s'en moquer, mais une forme de curiosité intellectuelle peut nous inciter à découvrir cette revue Hérodote, revue de géographie et de géopolitique, éditée par la documentation, par la Découverte, pardon, et son numéro 187 a pour titre France 2022. Une nouvelle géopolitique électorale. Dénoncer un système, c'est aussi bien le connaître. Et ce numéro analyse l'état des forces politiques et montre le rôle des acteurs, les rivalités de pouvoir entre les forces politiques adverses au sein d'une même famille politique. On est toujours en train de penser au coup d'après. C'est le coup d'après qui compte. Et l'intérêt de cette approche, c'est l'analyse des résultats fondés sur les dernières élections, mais de voir aussi les bouleversements. Croissance continue du vote d'extrême droite, effondrement du Parti communiste, du Parti socialiste, éclatement des droites, succès apparent de la stratégie Mélenchon. Vous avez vu que tout cela est très très fragile en ces derniers jours du mois de décembre 2022. Et bien sûr, le premier parti de France, l'abstention. Et plus précisément, certains articles portent sur des secteurs topiques, Seine-Saint-Denis, Marseille, Corse, Pyrénées-Orientales. Et rappelons que, au moment des élections présidentielles de mai 2022, trois candidats émergent, au détriment de ceux présentés par les autres partis. Pourtant, chaque élection ne se vaut pas et l'abstention fausse tout. Les résultats des écologistes ne se fichent pas, ils se liquéfient au contraire. Et le pseudo-succès du président sortant ne doit pas tromper. Les résultats des élections législatives ne lui donnent qu'une majorité relative. Un fait hors norme sous la Ve République. Aucun effet d'enthousiasme. Son élection est due à la médiocrité des autres candidats et il ne pourra gouverner qu'avec l'aide de la droite et des outils constitutionnels bloquant tout débat par ailleurs inutile. Et nous voyons l'utilisation à tour de bras de l'article 49.3 par l'actuel gouvernement. Et 5 mois après, on en est réduit à menacer de dissoudre l'Assemblée. Ah oui, mais si on dissout l'Assemblée, eh bien, ça veut dire que on a une montée automatiquement du Rassemblement national. Et en fait, dans le genre blocage d'un régime parlementaire, c'est pas si mal quand même. Hein. Mais je pense que nous ne sommes pas au bout de nos surprises. La gauche est fascinante, la gauche institutionnelle est fascinante. On le savait, ses capacités de désunion sont abyssales. Et comme l'écrivait Séverine, les intérêts politiciens l'emportent sur les besoins de la population. Mélenchon a réussi son coup politique. Il a planté le PS dans l'humiliation, son ancien parti politique. Il n'assume pas les responsabilités politiques et il entend s'affirmer comme un leader charismatique. Que reste-t-il aux habitants ? Une mobilisation faible, l'abstention qui exprime une protestation, oui, non, un désintérêt, sans doute, un repli sur soi, oui, et le sens social est en panne, ces élections en sont la démonstration, un numéro d'Hérodote particulièrement utile pour comprendre l'évolution d'une société, Hérodote, numéro 187, France 2022, une nouvelle géopolitique électorale. Et pendant que je présentais ce numéro, eh bien, notre invité, Aristide Barrault, pour son livre Bâtiment 5, Courte vie pleine, nous est en ligne. Alors, Aristide Barrault, bonjour.
Bonjour.
Alors, je vais tout de suite donner la parole à Marie, car c'est elle qui va mener l'entretien. Marie, à toi.
Bonjour Aristide Barrault.
Bonjour.
Comment enchanté. Allez-vous?
Ça va bien, merci. Merci et vous?
Alors, merci d'avoir accepté notre invitation sur Radio Libertaire aujourd'hui, malgré cette période de fête.
C'est un grand plaisir.
Très bien. Alors, est-ce que vous m'entendez bien déjà pour commencer?
Oh, parfaitement, oui. Parfaitement.
D'accord. Bon, bah, moi aussi, je vous entends très bien, donc c'est parfait. Alors, tout d'abord, je vais vous demander de nous présenter assez rapidement votre livre, donc Bâtiment 5, Courte vie pleine, paru en octobre 2022 aux éditions du Seuil.
Alors, c'est un livre un peu spécial, je crois, parce que il est déjà... C'est un livre de photographie avec beaucoup de textes. Mmh. Moi, j'avais beaucoup d'envie dans ma tête, et les éditions du Seuil, qui n'avaient pas édité de livres photographiques depuis Raymond Depardon, ont accepté un peu toutes mes idées. J'ai eu des éditrices exceptionnelles qui ont accepté un peu toutes mes idées, à chaque fois avec leurs propres idées, leurs propres remarques, et ça a été un vrai travail d'équipe. Mm-hmm. Donc je crois qu'il y a plus de 250 photos avec plus d'une centaine de pages de textes aussi. Mm-hmm. J'ai mes proches à la sortie du livre qui l'ont lu m'ont tous dit que c'était en fait un roman photographique. J'ai trouvé que c'était bien parce que moi j'avais pas trop d'avis. Il y a des choses assez étranges dans ce livre. J'avais demandé qu'il n'y ait pas de pagination, donc il n'y a pas de numéro de page.
Oui.
Il n'y a pas d'index, il n'y a pas de sommaire. Il y a beaucoup d'écriture manuscrite aussi, écrite de ma main, qui revient parce que dans ce bâtiment, j'ai beaucoup écrit à la peinture et j'avais envie que cette écriture soit présente dans le livre.
Oui, tout à fait.
Et voilà ce que je peux en dire.
Il s'agit d'une écriture un peu instinctive, c'est l'impression que ça m'a donnée aussi en lisant le livre, en regardant même les photos qui illustrent. C'est un petit peu instinctif, c'est vrai. Hein. Enfin, vous vous êtes laissé guider par vos émotions, en fait, hein, tout simplement, par votre ressenti. Et donc, en fait, moi, j'ai eu vraiment la forte impression que l'objectif de cet ouvrage, pour vous, c'est de faire revivre toute la mémoire de la cité des Bosquets de Montfermeil. Donc, pouvez-vous nous expliquer avec vos mots ce qu'a représenté pour vous ce projet ambitieux, donc en commençant par résumer brièvement l'histoire de cette cité, justement?
Oui, c'est vrai. Et quand vous parlez d'instinctif, c'est tout à fait ça, parce qu'en fait, je suis rentré dans ce bâtiment en janvier 2020 sans avoir rien prévu, rien préparé. J'avais aucune idée que 2 ans et demi plus tard, un livre sortirait. J'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Je l'ai fait par instinct parce que je me suis retrouvé devant ce bâtiment et j'y suis rentré. J'y suis rentré illégalement et j'y ai passé beaucoup de temps. Et j'avais aucune idée de la Cité des Bosquets avant ce jour de janvier 2020. Mm-hmm. Je connaissais un groupe de rap qui s'appelle Démocraté, que j'écoutais quand j'avais 10 ans. Je connaissais évidemment l'histoire de l'Adjli. Mmh. Parce que je suis arrivé au Bosquet parce que j'ai été pris aux auditions pour l'école Courtrage-Mais. C'est ce jour-là que je suis rentré dans ce bâtiment et j'ai été pris ensuite à l'école.
D'accord.
Et je connaissais pas grand-chose à part cette histoire de l'abandon, je dirais. Je savais que c'était un des quartiers les plus abandonnés de France, mmh, qui avait été extrêmement médiatisé aussi. Mmh. Voilà ce que j'en savais.
Et donc, vous êtes un ancien rugbyman professionnel. Hein. Votre carrière a subitement pris fin en 2015 après les traumatismes et les blessures subies par les attentats du 13 novembre à Paris. Et oui. Finalement, est-ce qu'à travers ce projet réalisé au sein du bâtiment 5, vous avez tenté de faire le lien entre la démolition corporelle que représente votre propre histoire et la démolition matérielle des Bosquets?
En fait, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai, mais tout ça, je m'en suis rendu compte bien après.
Oui.
Je me souviens, la première personne qui me l'a dit, c'était JR, l'artiste, qui a été mon mentor, en fait, dans toute cette aventure, qui a cru en moi, qui m'a formé. Mm-hmm. Et en fait, un jour, il est arrivé dans le bâtiment 5, parce qu'il savait que j'y étais, que je faisais des choses. Et il est arrivé avec l'Adjli. J'étais en juin 2020, ça faisait déjà 6 mois que je travaille dedans, si on enlève les 2 mois de confinement. Mm-hmm. Et que je faisais des trucs que... En fait, je menais un projet artistique sans savoir même ce qu'était un projet artistique. D'accord. Évidemment, c'était, voilà, comme on disait tout à l'heure, tout instinctif. Et c'est à ce moment-là que JR, au début, le projet, il en était assez balbutiement et j'étais vraiment concentré avec les destructeurs du bâtiment qui avaient mon âge et qui, en fait, étaient en fait tous des anciens habitants du bâtiment 5. Et c'est quelque chose qui m'avait vraiment touché, vraiment marqué. Oui. Et j'avais envie de passer du temps avec eux sans trop savoir comment m'y prendre. Mais je tâtonnais, j'essayais. Et c'est la première fois que c'est JR qui m'a dit ça, qui m'a dit, en fait, est-ce que tu te rends compte que ce que tu es en train de faire là, c'est totalement lié à ton histoire récente, c'est-à-dire la destruction et la reconstruction. Et en fait, oui. Il me dit, tu es en train de mener ton premier projet artistique, c'est ce pourquoi il me formait. Et il m'a dit, tu es en train de mener ton projet artistique dans un chantier de démolition, alors même que toi, tu es en train de te reconstruire. C'est quand même incroyable.
Ah, c'est génial.
Et là, je me suis dit, ah, mais merde, c'est vrai. C'est vrai. Et en fait, c'est JR le premier à m'avoir dit ça. Et j'en suis assez fier parce que je lui dois beaucoup. C'est lui qui a cru en moi, qui m'a formé, qui m'a lancé dans ce
projet. Qui vous a impulsé dans ce projet artistique, quoi. C'est
ouais, tout à fait. C'est lui qui m'a dit ça. Et puis ensuite, c'est vrai que quand j'écrivais le livre, plus je me replongeais dans cette histoire et dans les 3 années que je venais de vivre, puis je me disais, mais en fait, c'est vrai, c'est totalement ça, c'est complètement fou. C'est complètement fou. Mais même de pourquoi j'ai eu cet instinct de rentrer dans ce bâtiment de destruction. En fait, c'est une destruction de bâtiment, c'est un endroit qui est hostile.
Tout à fait.
Pourquoi j'ai passé tout ce temps? Ouais. Mm-hmm.
Oui, c'est une grande question philosophique, existentielle, c'est vrai.
Ouais. Mais en fait, ça s'est passé comme ça. Et ce qui est beau, c'est que je l'avais pas préparé, je crois. Et c'est aussi ce que j'ai voulu démontrer dans le livre, dans les premières pages. 50 premières pages, c'est que tout se fait au hasard, tout se fait à l'instinct, l'envie, tout se fait avec les rencontres, avec un peu cette détermination que j'ai eue de parler de cette histoire-là qui me semblait très importante, qui résonnait beaucoup en moi. Et je l'ai fait uniquement parce que les gens m'ont permis de le faire. C'est comme on disait tout à l'heure, c'est un lieu très, avec une histoire complexe, difficile, compliquée, avec beaucoup, beaucoup de périodes difficiles et je l'ai fait parce que les habitants m'ont laissé faire et ils m'ont laissé faire parce que j'ai fait avec eux. Je me suis pas approprié cette histoire, je me suis pas permis de parler à leur place. J'ai juste été là et j'ai pris le temps. Voilà.
Et alors concernant ces habitants hein, de la cité des Bosquets, donc vous y avez vécu 2 ans et demi, et que pouvez-vous nous dire justement de leur quotidien, de ces habitants, l'ambiance qui y régnait en fait?
La cité des Bosquets aujourd'hui, elle a beaucoup beaucoup changé par rapport aux 30-40 premières années, parce que c'est un peu le laboratoire de la rénovation urbaine, de l'ANRU qui s'est concentré sur cette cité parce qu'elle cristallisait beaucoup des soucis, et c'était une des cités qui étaient les plus médiatiques pendant toute cette période, avec aussi la cité des 4000 à la Courneuve. C'est une histoire folle. C'est une histoire folle depuis la construction de cette cité. Il y a je peux dire quelques mots, par exemple, que cette cité n'est pas une cité HLM. C'est une cité qui était d'accession, donc c'était des propriétaires, et elle est arrivée. Elle a été construite au moment où la France connaît une surproduction. Donc les lots ne sont pas achetés, et donc il y a toute des fonds de pension américains qui se sont rabattus sur ces lots, qui ont essayé de les revendre, ça s'est pas vendu. Et donc la cité a vite périclité, tous les ascenseurs, les peintures, tout a vite été abîmé. Les gens ce sont les primo-habitants, les primo-arrivants en France, qui sont arrivés dans les années fin 70, début 80, par vague d'immigration, hein, c'est l'histoire de la France.
Tout à fait.
Et c'était des populations les plus vulnérables économiquement qui sont arrivées là. Il y a eu beaucoup de marchands de sommeil aussi. Oui. Et alors, évidemment, comme dans toutes les zones, je crois, toutes les zones en difficulté, c'est la solidarité qui fait le ciment de la vie.
Bien sûr.
Et après, c'était aussi ces habitants qui ont été visés par notamment le maire de Montfermeil de l'époque. Ça avait fait beaucoup de bruit dans les années 80-90 parce que le maire de l'époque interdisait l'admission dans les écoles primaires aux enfants. Il coupait l'eau chaude, des choses comme ça. Et ça faisait grand bruit. Voilà ce que je peux dire de cette époque-là.
À ces enfants ensuite, issus de l'immigration en plus. Hein,
tout à fait, évidemment. Hein. Là, ça a été une cité qui a accueilli les vagues d'immigration successives avec des populations qui étaient vulnérables. Ouais, qui étaient vulnérables. C'est aussi au début, je sais que dans les années, fin des années 70, il y a une grande partie du bidonville de Nanterre qui arrivait dans la cité des Bosquets. Mmh. Et puis, ensuite, les destructions ont commencé dans les années 94.
D'accord.
C'est vrai qu'en parlant avec les anciens habitants, il y a à la fois une grande nostalgie de l'époque, des années 80-90, avec cette solidarité, cette vie en communauté, cette entraide, la connaissance, les voisins. Moi, j'ai des amis maintenant, certains garçons qui sont devenus mes amis, et qui avaient leurs cousins, leurs oncles, leurs tantes, qui vivaient dans le même bâtiment. Ça crée un environnement assez fort, assez... C'est pour ça que je dis souvent, j'utilise beaucoup le terme de nostalgie, c'est un livre nostalgique parce que cette cité n'existe plus, les grandes barres ont disparu et les gens sont à la fois très nostalgiques de cette époque, parce qu'ils y ont laissé une partie d'eux-mêmes, parce que c'est là que leur vie a pris racine, leur vie en France, cette nouvelle vie, alors qu'eux-mêmes avaient été arrachés de leur propre pays.
Oui.
Et on s'attache toujours à ces endroits-là. Et en même temps, c'était une vie difficile parce que c'était un environnement avec beaucoup de pauvreté. Qui était loin de tout. L'histoire de la cité des Bosquets, pour comprendre ce quartier aussi, il faut comprendre cette distance, l'éloignement, cette ségrégation spatiale. C'est vraiment un quartier qui est loin de tout, qui est à 30 km de Paris à vol d'oiseau, mais qui est finalement à 2 heures et demie en transport.
Oui, tout à fait. Hein. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est presque en province, tellement c'est compliqué d'accéder à Paris depuis Montfermeil. Hein, c'est vrai. Hein. Même encore aujourd'hui, c'est compliqué. Hein. C'est une zone.
C'est très compliqué.
Tout à fait. Et donc, à travers l'histoire donc, de la cité des Bosquets, pouvez-vous, avec vos mots, nous expliquer ce que représente pour vous ce phénomène de ghettoisation en fait, qui touche les banlieues depuis plusieurs années, hein, bien sûr. Donc, selon vous, y aurait-il une comparaison à faire aussi entre la France et l'Italie à ce sujet ?
L'histoire des banlieues italiennes a certaines similarités et certaines différences. Je m'en suis rendu compte. Je suis arrivé en Italie en 2013, que j'avais signé dans le championnat italien. Mmh. Évidemment, moi, ayant grandi en banlieue sud et ayant grandi dans un quartier dans les Hauts-de-Seine, j'avais tout de suite cette attirance par les zones périphériques et j'avais compris qu'il y avait énormément aussi de différences, notamment par le fait que la France est un pays d'immigration.
Oui,
la France est
beaucoup plus que l'Italie. Hein.
L'Italie, c'est même le contraire, c'est un pays d'émigration. La population italienne a quitté l'Italie depuis ces 200 dernières années, notamment beaucoup dans les années 30, avec l'élection, ils sont allés aux États-Unis. Et donc, mais ce qui rapproche, je dirais, les deux pays dans pour les banlieues et ce phénomène justement de ghettoisation, c'est l'abandon, c'est l'oubli progressif politique. Je crois que la grande responsabilité de la ghettoisation, que ce soit de la cité des Bosquets, de d'autres banlieues comme là où j'ai grandi, comme celle où que j'ai connue en Italie, c'est un abandon progressif. C'est un phénomène progressif de stigmatisation, de ségrégation à travers plein de dimensions, la spatiale, géographique, ensuite économique, ensuite sur l'emploi, ensuite sur une stigmatisation de presque à la carte d'identité. Je sais que par exemple un garçon qui est né au Bosquet, il va connaître une stigmatisation au sein même de sa ville, parce que au sein même de Montfermeil, qui est une ville aisée, une ville pavillonnaire, avec cette zone des Bosquets, qui est une zone qui a été vraiment coupée du reste de la ville, ça crée déjà une stigmatisation. Ensuite, dans le 93, le 93 est un département totalement stigmatisé, mais au sein même du 93, si un garçon annonce qu'il vient, ou une fille qui vient des Bosquets, il va y avoir tout de suite directement une stigmatisation, une défiance,
étiqueté comme venant des Bosquets aussi. Enfin, il y a cette forme d'étiquetage par rapport à l'endroit d'où il vient, ça c'est clair.
Tout à fait, c'est un étiquetage à plusieurs niveaux, quoi. C'est complètement fou. Moi, j'avais jamais connu ça. Moi, j'avais jamais connu ça. Moi, ayant grandi en banlieue, que ce soit voilà à Massy ou à Châtenay-Malabry, je connaissais. J'ai vécu des moments dans ma vie où j'avais été mis sur le côté, mal regardé, mal jugé par le fait que je venais d'un certain endroit ou d'une certaine zone. Mais là, c'était un niveau que je ne connaissais pas, que j'avais jamais pu même imaginer ce niveau d'étiquetage.
Mais aujourd'hui, vous pensez quand même qu'il y a un progrès, ou pour vous, c'est toujours aussi ancré cette ségrégation
Moi, je suis toujours positif, j'essaie toujours d'être optimiste et j'espère que les changements du territoire vont permettre aussi un changement dans les mentalités. Après l'évolution politique de la France me donne très parfois quelques jours pas beaucoup d'espoir et certains oui. Après je sais que toutes les jeunes, les gens de mon âge que j'ai rencontrés au Bosquet ou à Clichy-sous-Bois aussi m'ont donné énormément d'espoir parce que c'est des jeunes qui ont 10, 15 ans de moins que moi et qui sont des jeunes exceptionnels, qui ont une vision, une intelligence, une connaissance de leur territoire, de leur pays, et qui ont tous des talents incroyables. J'ai rencontré énormément de talents artistiques. Évidemment, voilà ce qui représente aussi la jeunesse des territoires stigmatisés, c'est une détermination sans faille. C'est une capacité à s'adapter, à transformer, une débrouillardise que j'ai jamais rencontrée ailleurs.
Ce qui caractérise
les gens qui ont grandi en banlieue, c'est cet aspect un peu couteau suisse, savoir tout faire.
C'est vrai.
La plupart parlent déjà deux ou trois langues, la langue de leur d'origine de leurs parents, le français, l'anglais maintenant avec les études. C'est des gens qui ont tout à donner, qui ont tout à donner. La France, les institutions, que ce soit économiques, artistiques, ont intérêt à se servir de cette force, de cette intelligence, de cette ferveur qui existe. Et donc, moi, je reste optimiste et j'y crois beaucoup.
Oui, et puis c'est vrai que, contrairement à de nombreux a priori, finalement, les jeunes, ils entreprennent des études, ils veulent sortir des cités, essayer de voir autre chose. Enfin, ils ne se cantonnent pas à leur situation, ils essayent vraiment d'aller de l'avant, en fait. C'est ça aussi.
Bien sûr. Moi, je suis persuadé que dans 10 ans, 15 ans, je retrouverai la plupart des jeunes qui aujourd'hui ont 15, 20 ans et je serai émerveillé de ce qu'ils seront en train de faire, de leur vie, grâce à cette vision, à cette force qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Je suis persuadé que voilà, les jeunes qui ont grandi au Bosquet, à Clichy-sous-Bois, ont un avenir exceptionnel parce que de plus, et je le dis bien, leur parcours, leur chemin sera semé d'embûches. Et ça commence là maintenant avec je m'étais fait beaucoup d'amis qui avaient 18 ans et qui ont dû déjà passer le parcours sup et je me suis rendu compte à quel point déjà cette épreuve était stigmatisante. Et ils s'en sortent, ils essayent, ils luttent, ils travaillent, des gens déterminés,
ils s'accrochent, quoi. Voilà, tout à fait,
bien sûr, voilà.
Alors, bon, comme le temps passe, on va aborder maintenant la photographie qui est très abondante dans votre livre et qui constitue une très belle illustration de votre témoignage. La majorité des photos, alors, elles ont été prises par vous-même ?
Ouais, tout à fait, à part une ou deux dans l'ouvrage.
D'accord. Et donc, un grand nombre de ces photos illustrent donc à la fois le chantier de démolition, le travail de collage sur les murs, et puis aussi les diverses rencontres avec des anciens habitants du bâtiment 5, dont certains d'ailleurs, les ouvriers, sont même devenus les propres acteurs de la démolition du bâtiment. Qu'avez-vous retenu en fait de tous ces échanges, avec les ouvriers par exemple? J'imagine que vous avez beaucoup échangé avec eux. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, en fait, que vous avez retenu d'important ?
Ce que je retiens des moments passés avec les ouvriers en destruction, c'est des souvenirs presque irréels de ce que j'étais en train de vivre. C'est-à-dire que j'étais dans des salons avec des papiers peints, avec des signes de vie, entouré de garçons, soit de mon âge, soit plus jeunes, qui détruisaient les murs, et parfois les murs de leur chambre, les murs du salon, où étaient arrivés leurs parents, où étaient morts leurs grands-parents, avec des discussions de peu de mots. Mmh. Moi, j'ai mis beaucoup de temps avant de parler, avant de sortir mon appareil photo. C'est un lien qui s'est fait très, très doucement.
Oui.
J'ai dû leur montrer mon respect. Mmh. J'ai dû leur montrer que je ne jugeais rien, que j'étais avec eux, que je comprenais en une petite partie de ce qu'ils vivaient et que je me sentais extrêmement respectueux de tout ce que je pouvais pas comprendre dans ce qui était en train de se passer. Mmh. Et puis, c'était, je crois, cette espèce de relation que créent les ruines.
Oui.
Les ruines qu'il y a à l'intérieur d'eux, qu'il y avait encore à l'intérieur de moi.
Les ruines, elles ont toute une mémoire, hein. C'est vrai. Hein.
Bien sûr. Mmh. Ouais, les ruines ont une mémoire, les murs ont une mémoire, et on était là, entourés de poussière. Je me rappelle de ces journées gelées, dans le froid de février, dans le gris, avec ces garçons qui se protègent du froid comme ils peuvent. Et j'ai fait ces photos, voilà, qui sont glacial, mais avec des regards pleins de vie, pleins d'espoir aussi. Mmh. Et c'est ce que je me souviens de ces moments assez incroyables. Quand j'y pense, j'ai presque l'impression que je l'ai rêvé plutôt que je l'ai vécu. Mmh. Tellement c'était irréel. Mmh. Puisque je me rappelle du reste, de toutes ces histoires que j'ai connues, de ces deux années sur place, de ces rencontres, de ces moments à écouter, à essayer de comprendre et à me faire tout petit devant le poids de l'histoire des bosquets, le poids de l'histoire de tous ces gens, de tous ces parcours. C'est ce que je voudrais me rappeler, c'est la complexité. Et la complexité, et voilà, mon enfance et mon adolescence m'avait appris déjà ça, que la banlieue, les banlieues, les cités, ce sont des territoires de complexité et de tolérance.
Oui.
Et malgré qu'on, à chaque fois qu'on pense connaître, qu'on pense comprendre, on est toujours loin du compte. Mmh. Et moi, je me rendais compte aussi à quel point, à ce moment-là de ma vie était complexe, ma vie était compliquée avec le passé, mon passé et ce que j'y vivais. Alors, j'avais envie de me rendre compte, de comprendre cette complexité pour que finalement la mienne soit aussi connue. Même si pendant ces deux années et demie à dans l'ombre du bâtiment 5, j'ai jamais parlé de moi, de mon passé. J'étais juste Aristide, ce garçon qui était là depuis pas longtemps et qui travaillait dans le bâtiment 5. Je crois que même personne savait que j'étais joueur de rugby professionnel.
D'accord, oui. Mais en fait, j'ai l'impression que la notion d'identité, elle est vraiment centrale dans ce projet hein, que vous avez réalisé. Et j'ai d'ailleurs été touchée hein, par cet épilogue hein, de votre ouvrage. Mais je serais qui si j'avais grandi ailleurs? Vous pouvez commenter cette phrase parce que j'ai vraiment, vraiment l'impression, là, en vous entendant, que c'est ce qui ressort en fait de tout ce que vous dites aujourd'hui. C'est ce qui ressort en fait. Mais je serais qui si j'avais grandi ailleurs?
Ça me fait plaisir que cette phrase vous ait touché. C'est vrai, c'est une phrase. En fait, c'est ça qui est assez drôle, je trouve. C'est qu'elle est très simple, cette phrase, elle est presque bateau, mais en fait, elle représente tout ce projet.
Oui, elle en dit long, quoi.
Elle en dit long. Oui, et puis à la fois, ben, la semaine dernière, j'étais avec des jeunes de campagne qui sont devenus éleveurs, qui sont devenus maraîchers, et mmh. finalement, cette notion d'identité, elle était tout aussi forte que dans la cité des Bosquets. Et quand je vais, il y a un mois, j'étais en Italie, à Venise, et j'ai rencontré des gens qui avaient vécu, qui étaient nés à Venise, et cette notion était tout aussi importante. Et oui, je crois que vous avez raison, cet épilogue, il est l'élément central de ce livre, parce que grandir et être né au Bosquet, c'est, comme on le disait tout à l'heure, une étiquette et une force, oui. et une fierté aussi pour tous ces gens.
Tout à fait.
Et il faut se rendre compte de ça, il fallait, je crois, j'ai pu écrire ce livre, et j'ai eu la permission presque de faire ce travail, de faire ce livre, uniquement parce que j'avais pu peut-être montrer que j'avais compris ça. Mmh. À quel point le fait d'être né et d'avoir grandi dans un territoire comme la Cité des Bosquets était une identité en soi. Oui. Avec un passé lourd, un passé compliqué et une volonté de magnifier, une volonté de sortir, de transformer, de changer.
Mmh,
et c'est ce que, voilà, et je crois que j'ai construit le livre comme ça, avec les premières pages qui sont dans les ruines et les dernières pages qui sont justement tout en haut des bâtiments, avec un horizon très ouvert, avec tout ce travail, tous ces gens qui ont été avec moi, ces gens de tout âge, ces garçons, ces filles, et les gens qui se sont retrouvés dans ce travail, mmh. et à qui ça a ouvert des voies, des portes et des envies aussi.
Oui, 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 tout à fait. Hein. C'est un message, en fait, immense que vous faites passer à tous ces jeunes banlieusards issus de divers horizons, finalement. Et voilà, c'est la vie, c'est un combat qu'il faut perpétuellement mener. Et voilà, et finalement, même si les politiques sont souvent... voilà, comme elles sont, hein, enfin, il y a toujours cette ségrégation sociale, raciale, mais voilà, ils vont vraiment au-delà de tout ça, tous ces jeunes, en fait, hein, ils arrivent vraiment à surpasser, à surmonter tout ça, quoi. C'est ça qui est...
De toute façon, ouais, vous avez tout, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais de toute façon, il faut bien se dire que on n'a pas le choix.
Voilà,
on
n'a
pas
ça.
Le choix, et nous, tous, Français, humains, Et eux, jeunes gens ayant atterri sur Terre dans cet endroit précis qui est le plateau des Bosquets, le plateau de Clichy-sous-Bois, qui est un endroit très particulier, très compliqué, ben ils n'ont pas le choix, ils font avec,
oui.
Et tout comme nous, mais c'est admirable, et il faut marquer ça, et c'est ce que j'avais envie de marquer ce moment où le dernier bâtiment des Bosquets est tombé. Après 30 ans de destruction, tous ces gens qui ont grandi, qui ont vécu, qui ont évolué dans la poussière et les ruines au milieu d'engins de destruction, qui ont évolué dans ce paysage en perpétuelle évolution au milieu de toutes leurs maisons qui ont été détruites finalement progressivement, et de tout cet horizon ouvert et tout cette possibilité de champ de possible pour le futur.
Oui, donc une page se tourne, mais l'histoire, elle est gravée dans les mémoires, et ça, oui. Ça continuera tout le temps, voilà, à travers des ouvrages comme celui que vous avez fait, d'ailleurs, c'est ça, en fait, la mémoire de nos cités, de nos banlieues françaises et franciliennes, hein, c'est vraiment ce que j'ai beaucoup apprécié dans votre livre, en fait, c'est cette notion de témoignage qui est vraiment primordiale, hein. Enfin, moi personnellement, je fais des études d'histoire, donc forcément le témoignage, j'y accorde une grande importance, hein, qu'il soit daté d'il y a plusieurs siècles ou qu'il soit daté de maintenant, parce que maintenant on écrit l'histoire aussi pour les générations qui viennent, hein, donc
oui. Ouais, c'est vrai. Je me suis rendu compte de ça au milieu de l'écriture du livre, de la fabrication du livre. Je me suis dit, en fait, finalement, que j'étais peut-être fier et heureux que cette histoire-là soit marquée dans un livre et qu'elle puisse être connue des gens plus tard.
À votre façon, vous avez contribué à tout ça, quoi, cette écriture de la mémoire qui n'arrête jamais, jamais. Voilà, c'est en perpétuelle continuité.
Ouais.
Eh bien, écoutez, Aristide Barrault, je vous remercie beaucoup
pour
cet entretien.
Merci beaucoup.
Très chaleureux, hein, vraiment. Ça a été un plaisir de vous recevoir à distance sur Radio Libertaire.
C'est un plaisir pour moi.
On rappelle le titre.
Merci beaucoup.
Oui, 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 on rappelle le titre. Bah, allez-y, je vous en prie. Hein,
Alors, ça s'appelle Bâtiment 5, courte vie pleine.
Voilà.
Et c'est édité aux éditions du Seuil.
Ouais, très bien. Merci, merci. Et puis, si vous avez un autre ouvrage, n'hésitez pas à nous contacter, on en parlera avec plaisir.
Ça arrive bientôt.
Merci,
ouais.
Aristide.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir,
merci beaucoup.
Au revoir. Alors, vous voyez, depuis le début de l'émission, nous mentionnons rapidement les titres des ouvrages commentés. Et vous retrouverez leurs références, comme à l'ordinaire, sur le blog du groupe Communes de Paris, de la Fédération anarchiste, sur la page Facebook de Au fil des pages, puisque nous avons créé là tout récemment une page, et puis tous les livres que nous citons, et Frédéric en a parlé tout à l'heure, eh bien vous pouvez les commander auprès de Publico, la célèbre librairie de la Fédération anarchiste, 145 rue Amelot, Paris 11e. En effet, comme le disait Marie, l'interview, là, l'échange que nous avons eu avec Aristide est un échange riche parce qu'on sent l'histoire de ces banlieues. Il était à Châtenay-Malabry, il était à la Butte Rouge, il était donc dans des endroits, il était à Massy, enfin, c'est les secteurs que nous connaissons de région parisienne. Bon, ça, c'est vraiment très, très intéressant. Je voudrais passer désormais au troisième temps de l'émission et tout d'abord présenter une pépite. Un petit ouvrage censé s'adresser aux enfants, mais bien utile pour inviter les adultes à la réflexion, c'est-à-dire le dictionnaire anarchiste des enfants. Une première édition grâce à Jorge Enkis et la deuxième actualisée et enrichie par le collectif Emma Goldman, publié à l'atelier de création libertaire en cette année 2022. L'introduction ressemble à un conte et fait écho à des textes d'Élisée Reclus. Oh, tenez, je vais vous donner lecture de la page 5. L'anarchie, il y avait un papy qui rêvait d'un paradis, mais pas dans un autre monde, mais ici, chez toi, à l'école. Et puis, un jour, au travail, qui rêvait d'une vie où nous serions tous, toutes, amis, où personne n'aimerait la violence, mais le pain, le soleil, et même un grand jardin où on planterait des fleurs, des courgettes, on chanterait avec les oiseaux, on s'aimerait fort fort, on jetterait à la poubelle les fusils, les bombes, le poison qui brûle la terre, pas les poissons avec lesquels nous pourrions jouer. Alors, bon, voilà, c'est donc une promenade au milieu des mots de l'anarchisme, comme sur une île où nous accosterions. En effet, il y a, d'ailleurs, page 10 de l'ouvrage, le dessin d'une île. C'est assez amusant de voir ça. C'est enfantin, mais ça donne à réfléchir, j'insiste. Premier mot, le verbe aimer. Le deuxième, évidemment, l'anarchisme. Je vous laisse les découvrir, ils sont beaux et leurs définitions donnent à réflexion. D'autres abordent des questions complexes. Et même, je dirais, pour nous adultes, c'est pas évident. Par exemple, l'autoritarisme, je cite, « Ce sont ces personnes qui t'ordonnent d'obéir à leurs désirs. Par exemple, à l'école, certains enseignants qui t'imposent leur propre vision des choses et te disent quoi faire et quoi dire, quoi apprendre par cœur et t'obligent à respecter leurs règles, même si elles ne font aucun sens. » Et là, ça nous permet de repenser au livre que Frédéric a mentionné tout à l'heure et qui a été publié aux éditions du Monde Libertaire. Hein. Donc voilà, livre important. Et puis, tenez, il y a une autre page là qui me paraît pas inintéressante, c'est sur le capitalisme. Le capitalisme est un système d'inégalité où un petit groupe de personnes s'enrichissent toujours plus pendant que la pauvreté et la faim menacent les autres personnes, les forcent à devenir des travailleurs et des travailleuses pour les plus riches. Ce système détruit les rêves de bien des adultes et les empêche de faire ce qu'ils et elles voudraient vraiment faire. Crois-moi, pendant que ta mère ou ton père travaillent, ils, elles pensent à toi et préférerait faire des activités amusantes avec toi. Ça donne matière à réflexion, sans compter des thèmes qui invitent au débat quasi philosophique. La conscience. Qu'est-ce que la conscience ? Vous trouverez, vous verrez. La créativité. Et vous noterez aussi des définitions positives, comme le collectif... le collectif anarchiste ou l'éducation Bon. Et reclus est encore à la lettre G comme géographie. Moi, j'aime bien la lettre G. Alors, en géographie, la planète est la maison de tous les humains et non pas un espace réservé à quelques hommes puissants. La géographie est l'étude des territoires que nous occupons sur la planète et la façon dont nous les habitons. Ça, c'est tout à fait Élisée Reclus. Les relations avec les animaux pour définir des termes est intéressante. Celle de liberté, par exemple, mérite d'être notée. Alors, je tourne les pages. Liberté. La liberté, c'est quand tu peux t'exprimer, crier, chanter, parler de la façon que tu veux, sans que personne ne te dise quoi faire. La liberté, c'est quand un oiseau est en dehors de sa cage et retrouve sa propre façon de vivre en partageant avec les autres oiseaux. Très joli, très joli. Ou les plantes, tenez, les plantes. Là, vous verrez sur les plantes les semis. Pour faire pousser des plantes et des arbres, il faut d'abord faire des semis. On plante des graines dans la terre dans l'espoir que grandissent les racines et qu'apparaissent plus tard les fruits et les légumes qui nous nourrissent. Ben, c'est un peu ce que nous faisons. Nous semons des graines ici sur Radio Libertaire ou dans le journal Le Monde Libertaire. Bon, voilà, et puis on espère que ça va pousser. Et puis, je terminerai par un beau texte sur la notion de respect mutuel. C'est fondamental, le respect. Le respect mutuel, c'est respecter l'autre et se faire respecter par celle-ci ou celui-ci sans aucune condition. Les anarchistes souhaitent que chaque être humain sur la planète ait ce respect mutuel pour que chacun des autres êtres humains, peu importe ses différences de genre, de couleur, de peau, de capacité ou d'âge, chacun doit pouvoir bénéficier du respect mutuel. Et oui, promenez-vous dans ces mots, dans le monde merveilleux de l'anarchisme. Je rappelle le livre, le titre, Dictionnaire anarchiste des enfants, Enkis et collectif Emma Goldman, aux ateliers de création libertaire en 2022. Et comme je le disais, et comme je le fais classiquement, je suis passé préalablement à Radio Libertaire, à Radio Libertaire bien sûr, mais aussi chez Publico, et j'ai eu l'occasion de voir que vraiment ce livre était très demandé par les gens qui venaient découvrir cette librairie. Un autre livre terrible, rien à voir avec ce monde enchanté de Dictionnaire anarchiste, Le nom de Clara, publié chez Maurice Nadeau. Alors, les éditions Maurice Nadeau lancent une collection de poches destinée à donner une nouvelle vie à des ouvrages qui avaient déjà retenu l'attention de Maurice Nadeau, le grand journaliste littéraire. Et aujourd'hui, j'aborde le livre très émouvant de Zoazig Aron, Le nom, N-O-N, de Clara, publié en 2002 et réédité récemment. À noter que l'auteur a reçu le prix Goncourt du premier roman et puis le grand prix des libraires pour ce livre. Ce livre est une fiction et non un témoignage, comme le disait Sampone, mais au fil des pages, vous ne savez plus ce que vous lisez, c'est une forme de réalité. Le nom de Clara, N-O-N, je le rappelle, correspond à un refus de la vie normale, celle d'avant. D'avant quoi ? Ben d'avant son arrestation, elle est juive. D'avant son retour d'Auschwitz. Angelica, sa belle-sœur, l'attend à l'hôtel Lutetia, à Paris, à Sèvres-Babylone, comme tant d'autres. Le retour des déportés, le désespoir, le cynisme, et puis un jour, Clara est là. Elle retrouve Angelica, Alban, le mari de Setsi, et dans un premier temps, elle se réfugie dans le silence. Elle refuse de voir son enfant. elle tourne le dos à cette vie d'avant la déportation. Et pour ceux qui sont restés, comment vivre cette situation? Ces scènes courtes, présentées comme un journal, révèlent une situation peu connue et même occultée parce qu'il fallait oublier la vie des camps. Alors, vous lirez, elle explique son sens du nom. Évidemment, je ne vous lis pas la totalité du livre, c'est à vous. Et comment pouvait-on penser dans les camps? Eh bien, l'auteur nous donne un extrait. Tu as toujours pensé, de moins en moins au fur et à mesure. Certains devenaient fous. Il faut parfois n'être qu'un corps. Quand je le pouvais, j'étais heureuse de repenser, de remettre la machine en route. C'était difficile et étrange. Et parfois, tu ne me croiras pas, mais je refusais de penser. Ça me dégoûtait, comme si je me méfiais, comme si c'était dangereux. La vie dans les camps. Et Dieu en France. Il s'est fait rafler. Il a atterri dans un camp pour partir en fumée tous les jours. Vous lirez ces passages qui laissent l'héroïne sans larmes. Et l'auteur traite avec grande intelligence, nuance et sensibilité, la souffrance dans les camps, et notamment le sort des enfants de Zigane, que vous pourrez retrouver dans un livre de Claire Ozias, Le génocide des Tziganes à l'esprit frappeur, en 2022. Et puis, la grande question, le pardon est-il possible? Eh bien, pour ce qui me concerne, je n'aurai pas trop du reste de ma vie pour savoir que je n'ai pas rêvé un cauchemar d'idiot, de détraqué, parce que nous avons été traqués, même les privilégiés. Mais en sortant, nous sommes détraqués, on dit cela en français, nous sommes détraqués parce que nous avons subi la traque, après la traque, la détraque. Alors le pardon, l'idée de pardon, ce serait se disculper, me disculper, et cela, je ne suis pas autorisé. Ce serait me pardonner à moi-même, ça n'a aucun sens. À ce degré d'ignominie, la pensée même de pardon s'effondre, elle est obscène. Il y a statu quo pour que le monde continue de vivre, l'idée de pardon tuerait le monde. Je vous laisse le soin de découvrir. Vous découvrirez aussi le parcours de Clara en Allemagne après sa libération, son passage par Berlin, des relations qui lui disent qu'elle n'était pas innocente puisqu'elle était juive. Ah oui, mais vous avez été déportée. Oui, mais c'est parce que vous étiez juive. Il y avait bien une raison. L'horreur. Vous goûterez l'échange sur la philosophie dans le monde d'après, la poésie. Et puis, j'aime les derniers mots du livre. Clara, comme un chantier. Lisez-le pour comprendre. Sois-y Garon, le nom de Clara, aux éditions Maurice Nadeau Poche, en 2022, avec une interview de l'auteur, justement menée par Maurice Nadeau. Frédéric, est-ce qu'on peut passer à un chant des musiciens qui rejouent la musique que l'on jouait à Auschwitz?
We're bringing this thing to life. We're hearing exactly, well, as close as possible, how it sounded in Auschwitz I in 1943. Thank you.
quatrième temps de l'émission spéciale autogestion. Je vous rappelle que la notion d'autogestion est prégnante dans le mouvement ouvrier et je vous invite particulièrement à lire Le Monde Libertaire dans son numéro de décembre, là, 2022, qui reprend des interventions de la journée d'études initiée par le groupe Commune de Paris de la Fédération anarchiste. Alors, vous retrouverez des articles historiques, hier l'autogestion, des articles sur l'autogestion face à d'autres conceptions de l'économie, et puis des présentations d'expériences comme le lycée de Paris, le lycée de Saint-Nazaire, et nous avons souhaité des SCOP, sociétés ouvrières de production, hein, comme ça qu'on les appelait, dont la présentation est assez intéressante. Et puis nous avons souhaité donner à notre ami Nader Tef une large place à l'initiative des ouvrières et des ouvriers en Iran du temps où l'autogestion pouvait encore avoir un sens avant la dictature qu'ils ont vécue après. Et puis, l'autogestion est associée à un nom, un mythe, l'IP. Et dans la chronique des idées et des luttes du 21 juin 2021, sur le site du Monde Libertaire, j'avais présenté un livre de Charles Piaget, On fabrique, on vend, on se paye, l'IP 1973, aux éditions Syllabs. Je le recommande toujours. Et puis là, j'ajouterai un opuscule édité par les cahiers de l'Institut Tribune Socialiste, La mémoire du PSU et les éditions du Crocan, avec pour titre « Autogestion et révolution, Charles Piaget, intervention 1974 ». Nous y retrouvons le combat des LIP, le contexte avec d'autres luttes comme ceux du Larzac, les conflits, les contradictions sur le rôle du leader, Piaget s'en explique très clairement, la complexité du rapport entre le syndicat et le politique, et comment une organisation comme le PSU peut allier combat électoral et approche révolutionnaire, défendre l'autogestion socialiste et le contrôle ouvrier avec une CFDT qui se tourne de plus en plus vers le PS dans une stratégie de conquête du pouvoir par le haut et non par la base. Et il y a une terrible et si juste phrase de Piaget à l'égard du PS, ce qui le caractérise toujours, et là c'est vrai encore plus aujourd'hui, c'est que le réseau de notables conseillers maires parlementaires constitue son véritable système nerveux. Nous avons vu sa déliquescence récente avec l'attrait du pouvoir macronien. Je pense à Séverine, dont nous avons déjà parlé il y a quelque temps. Et puis, vous verrez, l'analyse de Piaget est prémonitoire et lucide. Pour lui, il insiste sur le fait qu'il ne... ce qui s'est pas réalisé justifie de se mobiliser. Or, on leur a dit, il fallait patienter, il fallait faire confiance. Eh oui, et puis les travailleurs perdaient le pouvoir. C'est quelque chose que j'ai bien connu. J'ai aussi goûté cette formule. Notre objectif n'est pas de remplacer des patrons et des préfets de droite par des directeurs et des préfets de gauche. C'est pourtant ce qui fut fait. Les travailleurs perdaient tout pouvoir. Un exemple ? Didier Lallemand, membre du CRS, l'aile gauche du Parti Socialiste, qui donnait des leçons de gauchisme à tout le monde, et qui va finir comme préfet de police, avec les sinistres effets que nous connaissons. Pour Piaget, l'action est sur le terrain. Informer, échanger des expériences, organiser des liaisons sociales, horizontales, permanentes, permettant aux acteurs de ces luttes de s'exprimer, d'élaborer collectivement leur volonté de changement politique. L'autogestion n'est pas que dans le monde de l'entreprise. Je retrouve dans cet ouvrage, toute proportion gardée bien sûr, des accents des ouvriers fondateurs de l'AIT, vous savez, l'Association internationale des travailleurs. Un côté varlin, et ce que j'aime beaucoup, la dignité du monde ouvrier. Autogestion et révolution, Charles Piaget, intervention 1974, coédition, les cahiers de l'Institut de Tribune Socialiste et des éditions du Crocan en 2022. Et comme nous avons du temps, nous allons pouvoir repasser, nous allons pouvoir passer. Alors, Marie, explique-nous ce morceau de musique-là que nous allons entendre.
Oui, alors, pour illustrer l'entretien avec Aristide Barrault, j'avais pensé que nous pourrions écouter la fameuse chanson Banlieusard du rappeur Kerry James. Bon, ça fait déjà un certain nombre d'années hein, qu'elle est passée, mais elle est vraiment géniale, elle est intemporelle.
Quand vous voulez, ça tourne. Je trouve que ça sera bonne la première.
Allez, musique.
Voilà le chant des combattants, banlieusards et fiers de l'être. J'ai écrit l'hymne des battants, ceux qui ne font pas toujours ce qu'on attend. Deux, qui ne disent pas toujours ce que l'on veut entendre. Deux, parce que la vie est un combat. Pour ceux d'en haut comme pour ceux d'en bas. Si t'acceptes pas ça, c'est que t'es qu'un lâche. Lève-toi et marche, c'est un pour les miens. Arabe et noir pour la plupart et pour mes Baktous. Prolétaires et banlieusards, le deux. Ceux qui rêvent d'une France unifiée, car à ce jour y'a de France qui peut le nier. Et moi je suis de la deuxième France, celle de l'insécurité, des terroristes potentiels, des assistés. C'est ce qu'ils attendent de nous, mais j'ai d'autres projets qui me retiennent ça. Je suis pas une victime mais un soldat, regarde-moi. Je suis noir et fier de l'être, je manie la langue de Molière, j'en maîtrise les lettres. Français parce que la France a colonisé mes ancêtres, mais mon esprit est libre et mon Afrique n'a aucune dette. Je suis parti de loin, les pieds entravés, le système ne m'a rien donné. J'ai dû le braver depuis la ligne de départ. Ils ont piégé ma course pendant que les keufs me coursaient, eux investissaient en bourse. J'étais censé échouer, finir écroué, la peau trouée. Et si j'en parle la gorge nouée, c'est que j'ai nagé dans des eaux profondes sans bouée. J'ai le ghetto tatoué dans la peau, je rebelle comme écoué. Mais l'espoir ne m'a jamais quitté. En attendant des jours meilleurs, j'ai résisté et je continue encore. Je suis le capitaine dans le bateau de mes efforts. Je n'attends rien du système, je suis un indépendant. J'aspire à être un gagnant, tous les perdants. Parce qu'on vient de la banlieue, c'est vrai qu'on a grandi, non, les yeux dans les bleus, mais des bleus dans les yeux. Pourquoi nous dans les ghettos, eux à l'ENA, nous derrière les barreaux. Eux au Sénat, ils défendent leurs intérêts et luttent nos problèmes. Mais une question reste en suspens, qu'a-t-on fait pour nous-mêmes? Qu'a-t-on fait pour protéger les nôtres des mêmes erreurs que les nôtres? Regarde ce que deviennent nos petits frères. D'abord c'est l'échec scolaire, l'exclusion donc la colère, la violence et les civières, la prison et le cimetière. On n'est pas condamné à l'échec. Pour nous c'est dur mais ça ne doit pas devenir un prétexte. Si le savoir est une arme, soyons armés. Car sans lui nous sommes désarmés. Malgré les déceptions et les dépressions, suite à la pression que chacun d'entre nous ressent. Malgré la répression et les oppressions, les discriminations, puis les arrestations. Malgré les provocations, les incarcérations, le manque de compréhension, les peurs et les pulsions, leur désir de nous maintenir la tête sous l'eau transcende ma motivation, nourrit mon ambition. Il est temps que la deuxième France s'éveille. J'ai envie d'être plus direct, il est temps qu'on fasse de l'oseille. Ce que la France ne nous donne pas, on va lui prendre. Je veux pas brûler des voitures, je veux en construire puis en vendre. Si on est livré à nous-mêmes, le combat faut qu'on livre nous-mêmes. Il suffit pas de chanter, regarde comme ils nous malmènent. Il faut que t'apprennes, que tu comprennes et que t'entreprennes avant de crier.
Eh bien voilà, c'est assez rare que nous passions ce genre de musique sur dans notre émission, mais c'est très bien et ça correspondait bien au livre qu'on a eu le plaisir de présenter. Alors c'est fini pour aujourd'hui et cette année dans Au fil des pages. Merci pour votre attention et votre fidélité. Dans 15 jours, le mercredi 11 janvier 2023, une émission en direct consacré à un personnage étonnant même si un peu oublié Émile Pouget et sa théorie du sabotage. Nous recevrons Victor Cachard pour ses deux livres, Histoire du sabotage et Émile Pouget et la révolution par le sabotage, tous deux publiés aux éditions Libre. D'ici là, bonne lecture et en cette fin d'année, l'équipe d'Au fil des pages vous souhaite ni Dieu ni maître, toujours avec Léo Ferré, et à bientôt et au plaisir de partager.
Des coups de jatte avec la peur qui tend la patte. Le ministère de ce prêtre et la pitié à la fenêtre et le client qui n'a peut-être ni Dieu ni maître. Le fardeau blême qu'on emballe comme un paquet vers des étoiles tombe froide sur la dalle et cette rose sans pétale, cet avocat à la serviette, cette aube qui met la voilette pour des larmes qui n'ont peut-être ni Dieu ni maître. Ces voix que l'on dit de justice et qui poussent dans les supplices et pour meubler le sacrifice avec le sapin de service. Cette procédure qui guette ce que la société rejette sous prétexte qu'il n'en peut être ni Dieu ni maître. Cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles et qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style. Ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu ni maître, ni Dieu ni maître.
Déjà au seuil de l'après-midi, Johnson perçait sous Kennedy en des temps difficiles. Et comme Johnson est un brave zig, un démocrate que rien ne fatigue, il s'est engagé au Vietnam pour faire un job à Bob Dylan. Les temps sont difficiles. Prévert disait qu'il était dur. Le vacarme que fait l'œuf dur quand tapote sur le comptoir quand on a faim, matin et soir, par les temps difficiles.